Chapitre 18. Une proposition. Après la tentative d'assassinat du golem, les jours s'écoulèrent avec une lenteur qui agaça Matt au plus haut point. Comme pour l'énerver un peu plus, le ciel grisâtre ne changea pas, sauf pour déverser de la pluie. En ville, on parlait d'un homme tué par un loup, la gorge déchiquetée. L'affaire ayant eu lieu à l'extérieur des murs, personne ne s'inquiétait, mais on s'étonnait parce qu'on n'avait pas vu de loup près des boudards depuis des lustres. Matt, lui, s'inquiétait. Des citadins pouvaient penser qu'un loup était susceptible de s'aventurer si près des fortifications. Lui, il était trop malin pour gober ça. Le golem rôdait toujours. Voilà tout. Arnan et les autres bras rouges refusaient toujours de partir, affirmant qu'il devait surveiller ses arrières. Vanin s'incrustait aussi, sans livrer ses motivations, à part une phrase énigmatique sur le talent de son chef à repérer les chevaux rapides. Mais après l'avoir dite, il avait craché par terre. Son visage cuivré assez beau pour faire saliver un homme et ses grands yeux noirs assez délurés pour lui dessécher la gorge, Rizel s'était enquise de l'âge d'Olver. Apprenant qu'il approchait de ses 10 ans, elle avait eu l'air surprise. Cela dit, qu'elle ait changé ou non son protocole pédagogique, le gamin revenait toujours aussi enthousiaste de ses leçons. Qu'il s'agisse des livres que la belle lui lisait ou de son oreiller. Pour Rizel et la littérature, soupçonnait Matt, Olver aurait sans doute renoncé à leur partie vespérale de serpent et renard. Dès que le gosse sortait de l'ancienne chambre du jeune homme, Tom s'y glissait, la harpe sous le bras. En soi, c'était suffisant pour agacer Matt, mais il y avait bien d'autres choses. Tom et Beslan sortaient souvent ensemble du palais, sans jamais l'inviter, et ils restaient des heures dehors, de jour comme de nuit. Aucun ne disait un mot sur leur plan, même si le trouvère avait la décence de paraître embarrassé. Matt espérait qu'il ne provoquerait pas de massacres inutiles, mais il se fichait comme d'une guigne de son avis. Pire encore, Beslan ne foudroyait du regard chaque fois qu'ils se croisaient. Continuant à rôder dans les étages supérieurs, Julien avait été surpris par Sourot. En punition, elle avait fait suspendre par les poignets à une poutre de l'écurie. Matt avait chargé Vanin de soigner les blessures du pisteur de voleurs. Pour le gros palefrenier, soigner un homme ou un canasson revenait au même. Pourtant prévenu que le châtiment serait pire en cas de récidive, Julien était revenu le soir même, alors que le simple contact de sa chemise sur ses zébrures le faisait encore grimacer. Une affaire de femme, aurait juré Matt. Peut-être une des nobles séanchaniennes. Une servante aurait pu le retrouver dans la chambre qu'il partageait avec Tom, assez souvent absent pour ne déranger personne. L'élu du cœur de Julien ne pouvait pas être Sourot ou Tuon. Mais il y avait au palais d'autres femmes du sang. Si la plupart des nobles louaient une chambre ou une maison en ville, Sourot et Tuon étaient arrivés avec une suite. Malgré leur crête sur la tête, beaucoup de ces séanchaniennes étaient de sacrés beaux brins de femmes. Cela dit, elles regardaient de haut toute personne qui n'avait pas les tempes rasées, quand elles remarquaient son existence. L'une d'elles pouvait-elle en pincer pour un type qui dormait dans les sous-sols avec les domestiques? Eh bien, en matière d'hommes, avec les femmes, on ne pouvait jamais savoir. De toute façon, Matt était impuissant dans cette affaire. Qui que soit la dame, elle pouvait faire décapiter Julien. Mais quand il était pris d'une fièvre de ce genre, un homme devait en guérir avant de pouvoir réfléchir sainement. Les femmes avaient un effet étrange sur le cerveau des mâles. Chaque jour, de nouveaux navires déversaient des flots de gens, d'animaux et de matériel. Si tout ce monde était resté en ville, les fortifications, si massives fussent-elles, auraient fini par exploser. Mais les nouveaux venus traversaient simplement la cité avec leurs familles, leur bétail et leurs équipements, en quête d'une terre où s'installer. Des soldats passaient aussi par milliers. Des fantassins et des cavaliers, tous vétérans aguerris en armure aux couleurs vives, qui se dirigeaient vers le nord ou l'est. Matt renonça vite à essayer de les compter. Parfois, il vit de bien étranges créatures. Pas très souvent, parce qu'on les faisait débarquer un peu avant la ville, pour ne pas effrayer la population. Des tormes, au corps couvert d'écailles, semblables à d'énormes félins, n'étaient leurs 3 yeux. Des corlmes, évoquant des oiseaux sans ailes, leur corps poilu de la taille d'un homme, leurs grandes oreilles sans cesse frémissantes, et leur bec perpétuellement en quête de viande fraîche. De gros esrédites, avec leurs longues trompes et leurs défenses pointues. Des rakens et des thorakens, plus imposants, sillonnaient le ciel, depuis l'horaire d'envol et d'atterrissage, non loin du Rahad. Ces gros lézards aux ailes de chauve-souris transportaient des soldats sur leur dos. Tous ces noms avaient été faciles à collecter. Aucun soldat séanchanien n'hésitait à parler de l'utilité des rakens pour les éclaireurs, des talents de pisteur des Korlm, de la puissance des Esredit lorsqu'il fallait déplacer de lourdes charges, et de l'intelligence des Torm, bien trop vive pour qu'on puisse leur faire confiance. Matt avait appris une foule de choses intéressantes, auprès de soldats à la recherche de la trilogie magique. Un coup à boire, une femme accueillante, et une partie de dés juteuse. Pas nécessairement dans cet ordre. Ces hommes étaient d'authentiques vétérans. Bien plus grands que la zone qui s'étendait entre l'océan d'Arit et la colonne vertébrale du monde, le continent Séanchanien était dirigé par une impératrice. Mais une série d'émeutes et de rébellions gardait les soldats occupés en permanence et contribuait à leur formation. Une fois installés, les fermiers seraient plus difficiles à chasser, car eux n'avaient pas la bougeotte. Bien entendu, tous les soldats ne s'en allaient pas. À Eboudar, il y avait une forte garnison composée de Séanchaniens, mais aussi de lanciers tarabonais aux voiles d'acier et de piquets amadiciens avec leurs plastrons repeints d'une couleur vive pour rappeler une armure séanchanienne. Plus des altariens, évidemment, en sus des gardes de Tailin et de sa maison. Selon les Séanchaniens, les altariens de l'intérieur, avec leurs plastrons à rayures rouges, appartenaient à Tailin autant que les gardes du palais. Bizarrement, cette idée ne semblait pas plaire à la reine. Et pour tout dire, elle n'enchantait pas les types en question. Entre eux et les hommes de la maison Mitsobar en vert et blanc, on ne pouvait pas parler d'entente cordiale. Mais c'était une situation commune, ces derniers temps. Les Tarabonais regardaient les Amadiciens de travers. Les Amadiciens méprisaient les Altariens, et les Altariens se méfiaient comme de la peste des Tarabonais et des Amadiciens. De très anciennes animosités, tout ça. Par bonheur, ça n'allait jamais plus loin que quelques poings brandis, accompagnés d'un chapelet de jurons. Si 500 membres de la garde de la mort étaient cantonnés à Eboudar, ce n'était pas pour rien. Depuis l'arrivée des Séanchaniens, les délits et les crimes fréquents dans toute grande ville avaient drastiquement diminué. Mais les gardes continuaient à patrouiller, comme si des voleurs, des escrocs et même des bandes entières de brigands risquaient de jaillir du sol à tout moment. Du coup, les Altariens, les Amadiciens et les Tarabonais filaient à peu près doux. À part un fou ou un crétin, personne ne cherchait deux fois des noises aux gardes de la mort. Un autre contingent de ces troupes d'élite était cantonné en ville. Une centaine d'ogiers, si curieux que ça paraisse, tous en tenue rouge et noire. Parfois, ces jardiniers patrouillaient avec les autres. En d'autres occasions, ils sillonnaient seuls la ville, leur hache à long manche sur l'épaule. Ces ogiers ne ressemblaient pas à Loyal, l'ami de Matt. Physiquement, ils arboraient les mêmes caractéristiques. Des sourcils incroyablement longs, de gros yeux ronds comme des soucoupes et un énorme nez. Mais ils regardaient tous les passants comme s'ils envisageaient de leur arracher un membre ou deux. Pour leur chercher des noises, même une seule fois, on ne trouvait personne d'assez inconscient. Sans interruption, des Séanchaniens quittaient Eboudar et des nouveaux y débarquaient. Même quand ils étaient contraints de dormir au grenier, les marchands, pipe au bec, faisaient la roue dans les salles communes des auberges, en racontant tout ce qu'ils étaient les seuls à savoir, tant que ces révélations n'avaient pas d'impact négatif sur leurs bénéfices. Se fichant d'un argent dont ils ne verraient pas la couleur, les gardes du corps de ces négociants ne se censuraient pas, racontant tout, n'importe quoi, et à de rares occasions, la vérité. Eux aussi, intarissables, les marins déblatéraient tout ce qu'on voulait en échange d'une chope de bière, ou mieux encore, d'un gobelet de vin épicé. Ronds comme des queues de pelle, ils restaient tout aussi volubiles, évoquant les ports où ils avaient fait escale, les drames auxquels ils avaient assisté, et sans doute les rêves qu'ils avaient faits la dernière fois que l'alcool leur avait embrumé l'esprit. Quoi qu'il en soit, impossible de douter que le monde, hors de l'enclave des Boudards, était au moins aussi agité que la mer des tempêtes. De partout arrivaient des récits de mise à sac et de massacres, l'œuvre des Aïels, et des armées étaient en mouvement en Théar, au Mourandi, en Arad-Doman, en Andorre et en Amadicia, un royaume pas encore entièrement contrôlé par les Séanchaniens. Même en Altara, des troupes trop peu nombreuses pour mériter le nom d'armée se formaient presque chaque jour. À part en Amadicia et en Altara, personne ne savait vraiment qui seraient les adversaires et les alliés. Et encore, en Altara, il y avait des doutes. La conséquence d'une vieille habitude. Profiter de tous les troubles pour régler d'anciens comptes avec les pays voisins. Les nouvelles qui faisaient le plus de bruit dans la capitale concernaient Rand. Pour échapper aux fichues couleurs tourbillonnantes, Matt s'efforçait de ne pas penser à lui ou à Perrine. Rien de très aisé, quand le dragon réincarné était le sujet de presque toutes les conversations. Rand Altor, affirmaient certains, était mort, assassiné par les Aes Sedai. Un assaut massif de la Tour Blanche à Kyrienne, ou à Théar, ou encore à Ilian. Ça changeait avec chaque locuteur. Non, lançaient d'autres gens bien informés. Les sœurs avaient enlevé Rand et elles le retenaient à la tour. Faux, il y était allé de son plein gré, et il avait juré allégeance à la chair d'Amerline. cette dernière théorie était très populaire, parce qu'un grand nombre d'hommes prétendaient avoir vu une proclamation allant en ce sens et signée par Elaïda. Rand mort ? Rand prétend un serment de fidélité ? Sur ces deux points, Matt avait plus que des doutes. Si son ami était mort, il l'aurait senti. Pourquoi, il n'en savait rien. Et ce bon vieux Rand ne se serait pas approché à moins de 50 lieues de la Tour Blanche. Dragon réincarné ou non, il avait plus de jugeote que ça. Toutes les variantes de ces nouvelles excitaient au plus haut point les Séanchaniens. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, des hauts gradés arpentaient les couloirs du palais Tarasin, l'air affairé et le casque à plumes sous le bras. À cheval et à dos de Touraken, des messagers jaillissaient hors des boudards à la vitesse du vent. Traquant les femmes capables de canaliser, les duos de Suldam et de Daman ne se contentaient plus de filtrer les arrivées, mais patrouillaient aussi dans les rues. Matt se tenait très loin des officiers et saluait poliment les Suldam et les Daman qu'il croisait. Quelle que soit la situation de Rand, il ne pouvait rien y changer en étant à Eboudar. La priorité, c'était de quitter la ville. Le lendemain de l'attaque du Golam, juste après que Tailin eut quitté leurs appartements, le jeune homme avait brûlé tous les rubans roses, plus une veste, deux pantalons et un manteau de la même couleur. Une odeur de laine et de soie cramée ayant envahi les pièces, il avait ouvert les fenêtres pour aérer. Une bonne chose de faite. Aujourd'hui, il ronronnait de porter un pantalon bleu, une veste verte brodée et un manteau vert lourdement ornementé. Même la dentelle ne le dérangeait pas, parce qu'elle n'était pas rose, bien entendu. Mais surtout, qu'on ne lui propose jamais plus rien de cette maudite couleur. Chapeau vissé sur sa tête, il sortit du palais, plus déterminé que jamais à trouver un cagibi où entreposer tout ce dont il aurait besoin pour son évasion. Tant pis s'il devait écumer toutes les auberges, les tavernes et les tanières à matelots de la ville, y compris dans le Rahad. Dans le ciel plombé annonciateur d'averses, des mouettes grises et des becs en ciseaux aux ailes noires décrivaient de grands cercles, et un vent glacial au relent iodé balayait l'esplanade Molara. Avec ses bottes, Matt martela les dalles, comme s'il avait l'intention de les fracasser. S'il le fallait, il irait voir Luca dans son accoutrement. Avec un peu de chance, le type l'engagerait comme bouffon. Au moins, ça le rapprocherait d'Aludra et de ses secrets. Arrivé au bout de l'esplanade, Matt s'avisa qu'il était devant un bâtiment blanc des plus familiers. Au-dessus de la porte, l'enseigne annonçait qu'il s'agissait de la Vagabonde. En armure rouge et noire, un grand type sortit de l'établissement. Son casque, orné de trois plumes noires sous le bras, il se mit à attendre qu'on lui amène son cheval. Les tempes grisonnantes et la mâchoire carrée, il ne daigna pas regarder Matt, qui lui rendit volontiers l'appareil. Si urbain que cet homme parut, c'était un garde de la mort. Général d'étendard, qui plus était. Si près du palais, la Vagabonde louait toutes ses chambres à de hauts gradés séanchaniens. Pour cette raison, Matt n'y était plus retourné, depuis qu'il tenait de nouveau sur ses jambes. Les soldats du rang séanchanien n'étaient pas de mauvais bougres, toujours prêts à jouer toute la nuit et à payer la tournée quand c'était à eux. Les officiers, surtout de haut niveau, auraient tout aussi bien pu être des nobles, mais il fallait bien commencer quelque part. La salle commune n'avait pas changé, et comme toujours, des dizaines de lampes y brûlaient, quelle que soit l'heure. Pour garder la chaleur des deux grandes cheminées, on avait fermé les volets. Dans l'air planaient des relents de tabac et des odeurs bien plus agréables de bonne cuisine. Deux flûtistes, des femmes et un joueur de tambour interprétaient un air entraînant local. Rien de changé depuis que Matt avait résidé ici. Sauf que tous les sièges étaient occupés par des Séanchaniens en armure ou en redingote qui buvaient, parlaient ou étudiaient une carte déroulée sur la table. Dans un coin, une femme aux cheveux gris, la flamme d'une Der Suldam brodée sur l'épaule, faisait son rapport à des officiers. Un peu plus loin, une Suldam maigrichonne et sa damane bien en chair semblaient recevoir des instructions. Une bonne partie des Séanchaniens avaient les tempes et la nuque rasées, les cheveux restants formant une natte qui tombait jusqu'à l'épaule des hommes et pouvait atteindre la taille des femmes. De simples seigneurs et dames, sans rien de haut. Mais ça ne changeait pas grand-chose. Un noble restait un noble. De plus, les larbins qui allaient quérir une serveuse pour faire remplir les chopes avaient l'air arrogant des gens qui se savent protégés par l'importance de leur maître. Plusieurs d'entre eux le repérant et plissant le front, Matt faillit prendre la poudre d'escampette. Mais il aperçut l'aubergiste en train de descendre l'escalier sans rampe au fond de la pièce. Une superbe femme aux yeux noisettes, qui portait de belles boucles d'or dans les oreilles et arborait des cheveux délicatement grisonnants. Sétal Anan n'était pas des boudards, ni d'Altara, aurait parié Matt. Mais elle avait un couteau de mariage entre les seins et une longue lame incurvée accrochée à la ceinture. Informée qu'il était censé être un seigneur, elle ne croyait sûrement plus à cette fable. Et ça valait sans doute mieux ainsi. Quoi qu'il en soit, dès qu'elle aperçut Matt, elle lui fit un grand sourire qui la rendit encore plus jolie. Que faire, sinon la rejoindre, la saluer et s'enquérir de sa santé? Mais sans trop s'attarder cependant. Son mari, un malabar, était un capitaine de bateau de pêche couvert de cicatrices consécutives à des duels. Pour l'heure, Satel l'interrogea sur Nineveh et Elaine, et, plus surprenant, sur ce qu'il savait de la famille. Comment diantre en avait-elle jamais entendu parler?
Ces femmes sont parties avec Nineveh et Elaine,
souffla-t-il, l'œil aux aguets, histoire de s'assurer qu'aucun Séanchanien ne les épiait. Même s'il ne comptait pas rester longtemps, parler de la famille devant des occupants lui donnait la chair de poule.
Pour ce que j'en sais, elles vont toutes bien.
Parfait. J'aurais détesté apprendre que certaines portent désormais un collier.
Cette énormité lancée sans même baisser la voix, bien entendu.
Oui, c'est très bien,
marmonna Matt. Il s'empressa de formuler sa demande avant que cet hâle crie de joie, parce que des femmes capables de canaliser avaient échappé aux Séanchaniens. Lui aussi s'en réjouissait, mais pas assez pour finir couvert de chaînes. Cet hâle secoua la tête, s'assit sur une marche et posa les mains sur ses genoux. Relevée et cousue sur le côté gauche, sa jupe verte laissa voir des jupons rouges. En matière de couleur, à Eboudar, on faisait vraiment concurrence aux Ingari. Avec comme fond sonore la musique et les conversations des clients, l'aubergiste dévisagea longuement le jeune flambeur.
Le problème, c'est que tu ne connais pas nos coutumes. Chez nous, les mignons et les mignonnes existent depuis toujours et sont honorés. Filles comme garçons, bien des jeunes commencent leur vie sous ces auspices, comblés de cadeaux et pomponnés, avant de passer à l'âge adulte. Mais un mignon peut s'en aller quand il veut. Tailine ne devrait pas te traiter comme ça. Cela dit, elle t'habille très bien. Écarte ton manteau et tourne un peu sur toi-même que je vois mieux.
Matt inspira trois fois à fond pour se calmer. S'il rougissait, c'était de colère. Oui, de colère. Toute la capitale était donc au courant.
« Tu as un coin pour moi ou non ?»
demanda-t-il d'un ton indigné. La réponse se révéla positive. Matt pourrait utiliser une étagère dans la cave, au sec toute l'année selon ses tâles. Et il y avait aussi la cachette dans le sol de la cuisine, où il avait naguère dissimulé son coffre de pièces d'or. En guise de loyer, Sétale sembla se contenter de le voir pirouetter devant elle, avec un sourire de chatte qui vient de repérer une souris. Une Séanchanienne en armure rouge et bleue, le profil d'oiseau de proie, apprécia le spectacle au point d'envoyer à Matt une pièce d'argent gravée d'un visage de femme sur un côté et d'une sorte de trône sur l'autre, le tout surchargé d'étranges pictogrammes. Qu'importait ? Désormais, Matt avait une garde-robe et un coffre-fort. Une fois revenu au palais, il découvrit qu'il avait également de nouveaux habits.
« J'ai peur que les vêtements de Monseigneur soient en très mauvais état, »
annonça Nérim, sinistre. Né morose, sans aucun doute, le kyrienien maigrichon aurait commenté sur le même ton la livraison d'un plein coffre de pierres précieuses. Malgré son accablement, il guettait du coin de l'œil le retour de Tailine. Un bon point pour lui.
« Tout est sale et moisi, y compris les plus belles vestes. »«
Tout ça se trouvait dans une armoire, avec les jouets d'enfants du prince Beslan. »
fit Lopin, tout sourire, en tirant sur les revers d'une redingote sombre, semblable à celle de Djouilin. Le gaillard chauve était l'exact contraire de Nérim. Dodu plutôt qu'éthique, basané et non blafard, et le ventre toujours secoué par des éclats de rire. Après la mort de Nalessehan, il avait semblé vouloir surpasser Nérim en matière de pleurnicherie. Ces deux-là se tiraient sans cesse la bourre. Mais avec le temps, il était redevenu tel qu'en lui-même. Tant qu'on ne mentionnait pas son ancien maître, cependant.
« Ces habits sont poussiéreux, seigneur. »
Je doute que quelqu'un ait regardé dans l'armoire depuis que le prince y a rangé ses soldats de plomb pour la dernière fois.
Sentant que sa chance tournait enfin, Matt ordonna qu'on emporte ses vêtements à la vagabonde. Quelques-uns à la fois, avec un peu d'or, mais pas trop. Sa lance à la hampe noire et son arc de rivière devraient attendre jusqu'au dernier moment. Les exfiltrer serait aussi difficile que s'éclipser lui-même. Il ne fallait pas se voiler la face. L'arc pourrait être remplacé, le cas échéant. Mais pas question d'abandonner son Hachan d'Arey.
Cette lance m'a coûté bien trop cher pour que je la laisse derrière moi.
D'instinct, Matt toucha la cicatrice sous son foulard. Une des premières sur une bien trop longue liste. Comme il aurait aimé avoir devant lui autre chose que des bleus, des bosses et des batailles dont il ne voulait pas. Sans parler d'une épouse inconnue dont il ne voulait pas non plus. La vie devait lui réserver mieux que ça. Mais avant tout, il devait sortir entier des Boudards. La priorité. Lopine et Nérim se retirèrent avec l'équivalent de deux grosses bourses de pièces d'or réparties dans leurs vêtements pour ne pas faire de bosses suspectes. Tailin arriva sur ses entrefaites et demanda bien entendu pourquoi les serviteurs de son pigeonneau couraient comme des dingues dans le couloir. D'humeur suicidaire, Matt aurait pu lui dire qu'il faisait la course pour arriver le premier à l'auberge avec son or. Au lieu de ça, il s'efforça de distraire la terrible souveraine. Et cette activité ne tarda pas à le divertir aussi, lui faisant tout oublier. Sauf que sa chance, pour une fois, semblait lui servir à autre chose qu'à jouer. Avant de partir, pour qu'il soit totalement heureux, il suffirait qu'Aludra lui donne ce qu'il lui demandait. Tailin, se concentrant toujours sur ses tâches en cours, il dut se surpasser et ne pensa plus au feu d'artifice ni à son évasion. Provisoirement. Après une assez longue errance, Matt dénicha enfin un fondeur de cloches. À Eboudar, on trouvait des légions de fabricants de gongs, mais une seule fonderie de cloches, à l'ouest de la ville, au-delà des fortifications. L'artisan, un type impatient au teint cadavérique, suait à grosses gouttes, à cause de la chaleur de son gros four. La fabrique, une seule pièce tout en longueur, avait des allures de salle de torture. Des chaînes pendaient des poutres, et les flammes du four projetaient des ombres inquiétantes dans les coins. À chaque jaillissement, Matt, ébloui, devait battre des paupières. Dans un brouillard, il regarda des ouvriers lustrés de sueur verser du bronze en fusion dans un moule de plus de 3 pieds de haut, placé en position verticale sur une palette à roulettes. D'autres énormes moules et de plus petits occupaient la majeure partie de l'espace.
« Monseigneur est bien trop bon de plaisanter ainsi, »
dit Maître Sutoma. Il essaya de sourire, mais il ne semblait pas amusé du tout. Ses cheveux noirs trempés plaqués sur le front, il continuait à lorgner ses ouvriers d'un air mauvais, comme s'il risquait de tout laisser tomber pour aller faire la sieste s'il les quittait un instant des yeux. Un mort, songea Matt, n'aurait pas pu dormir dans cette chaleur. La chemise collée à sa peau, le jeune flambeur commençait à tremper sa veste.
« Je ne sais rien des illuminateurs, monseigneur, et ils ne m'intéressent pas. Les feux d'artifice, pour moi, ce sont des artifices, justement. Rien à voir avec les cloches. Et maintenant, si monseigneur veut bien m'excuser... La haute dame Sourotte m'a commandé 13 cloches pour une célébration de victoire. Les plus grosses cloches jamais fabriquées. Et qui les aura fondues ? Kalwin Sutoma ! »
Qu'il s'agisse d'une victoire contre son propre pays ne semblait pas perturber l'artisan. Soudain souriant, il se frotta les mains de jubilation. Plus tard, Matt tenta de faire plier Aludra. Mais cette femme aurait pu être en bronze, comme les cloches de Sutoma. Quand elle se laissa prendre par la taille, on aurait pu croire qu'elle s'adoucissait. Pourtant, les baisers enflammés qui la laissèrent pantelante n'entamèrent en rien sa résolution.
« À un homme, il ne faut jamais en dire trop !»
déclara-t-elle, assise près de Matt sur un banc rembourré dans son chariot. Si elle n'allait pas au-delà des baisers, sur ce plan, elle était très enthousiaste. Les fines tresses ornées de perles, qu'elle portait de nouveau, étaient tout emmêlées.
« Les hommes sont des commères. Ils parlent, et ils ne savent même plus ce qu'ils disent. » Et si je t'avais posé cette devinette pour que tu reviennes, tout simplement ?
Sur ces mots, Aludra en mêla un peu plus ses tresses, et Matt aussi en eut les cheveux en bataille. Depuis qu'il lui avait parlé du complexe capitulaire de Tanchico, Aludra ne fabriquait plus de fleurs nocturnes. Matt tenta 2 autres assauts contre Maître Sutoma, mais dès le deuxième, le fondeur lui ferma ses portes au nez. Occupé à créer les plus grosses cloches du monde, il n'avait pas besoin qu'un crétin d'étranger vienne lui poser d'imbéciles questions. Même si elle ne se rasa pas les tempes, Tailin se vernit en vert les 2 premiers ongles de chaque main. Pour les cheveux, expliqua-t-elle un jour à son mignon, ça viendrait tôt ou tard. Mais elle voulait s'habituer d'abord à l'idée, précisa-t-elle, en s'étudiant dans un miroir, sa crinière tirée au maximum en arrière. La reine s'accommodait de la présence des Séanchaniens, et elle n'était pas à blâmer, même si Beslan la bombardait de regards noirs. Tailin ne pouvait pas se douter au sujet d'Aludra. Pourtant, le lendemain des premiers baisers, les servantes vieillissantes furent remplacées par des domestiques carrément kakoshim. La nuit, la reine se mit à planter sa lame incurvée dans un montant du lit, histoire de la voir à portée de la main. Assez haut pour qu'ils l'entendent, elle se demanda plusieurs fois de quoi aurait l'air son pigeonneau, dans une tenue transparente de Dakovalé. En réalité, le pauvre montant ne subissait pas des assauts que la nuit. Un grand sourire aux lèvres, des servantes annonçaient à Matt qu'il était attendu chez la reine, qui venait encore de poignarder le lit. Inquiet, le jeune homme s'efforça d'éviter toute femme en livrée qui semblait de bonne humeur. Au fond, sa relation avec Tailin ne lui déplaisait pas, surtout au lit.
mais c'était quand même une reine, et comme toutes les nobles, elle ne se prenait pas pour quantité négligeable. En plus, elle lui donnait le sentiment d'être une souris adoptée par un chat. Mais il n'y avait qu'un nombre fini d'heures de jour, même si c'était davantage, en hiver, que sur son territoire natal. Et à un moment, Matt se demanda si Tali ne prévoyait pas de le séquestrer pour qu'il n'en profite pas. Par bonheur, elle se mit à passer de plus en plus de temps avec Surot et Tuon. À force de s'accommoder, elle semblait être passée à une profonde amitié, avec la gamine au moins. Personne au monde ne pouvait être proche de Surot. Apparemment, la reine avait adopté la petite, à moins que ce fût le contraire. De ses conversations avec la Séane Chanienne, elle ne lui disait presque rien. Pourtant, elles s'enfermaient ensemble pendant des heures, ou erraient sans fin dans les couloirs du palais, en chuchotant ou en gloussant. Très souvent, Anat ou Seloussia, la Sojin blonde de Tuon, suivaient à quelques pas, parfois flanquées d'un duo de gardes de la mort à l'œil perçant. Matt ne comprenait toujours rien à la relation entre Surot, Tuon et Anat. En surface, Surot et Tuon se comportaient comme des égales. S'appelant par leur prénom, elles riaient de leurs plaisanteries comme de bonnes copines. En présence du jeune homme, en tout cas, Tuon ne donnait jamais d'ordre à Surot. Mais la haute dame semblait prendre pour telle les suggestions de son ami. Anat, elle, bombardait la gamine de remarques acerbes et de critiques mordantes. Elle allait même jusqu'à l'injurier.
« C'est d'une insondable bêtise, petite !»
lança-t-elle un jour dans un couloir, alors que Matt passait par là. Tailin ne l'ayant pas encore fait convoquer, il tentait de s'esquiver avant qu'elle y pense. Longeant les murs et sondant les couloirs, il envisageait, en cas d'escapade réussie, d'aller rendre visite à Sutoma, puis à Aludra. Les trois Séan Chanyen, quatre en comptant Seloussia, mais elle ne voyait sûrement pas les choses ainsi, s'étaient massés juste après une intersection. En gardant un œil sur toute éventuelle servante arborant un grand sourire, Matt attendit impatiemment que ces dames veuillent bien lever le camp. Quel que soit le sujet de leur conversation, elle n'apprécierait sûrement pas qu'il vienne y mettre son grain de sel.
« La morsure du fouet te remettra les idées en place !»
continua Anat d'un ton glacial.
« Demande à être châtié qu'on en finisse !»
Croyant qu'il avait mal entendu, Matt tenta de se déboucher les oreilles. Les mains croisées sur le ventre, Seloussia ne broncha pas. Au contraire de Surot qui explosa.
« Tu vas la punir pour ça, j'espère !»
s'écria-t-elle, des yeux furibards rivés sur Anat, avec l'espoir de l'impressionner, mais c'était raté. Pour Anat, la haute dame aurait tout aussi bien pu faire partie du mobilier.
« Tu ne comprends pas, Surot. »
Tuon soupira, faisant onduler son voile. À travers le tissu transparent, Matt vit de la résignation sur son visage. Dire qu'elle était à peine plus jeune que lui. Franchement, il lui aurait donné 10 ans, voire 6 ou 7.
« Les augures ne vont pas dans ton sens, Anat. »
Rien d'agressif là-dedans. Une simple constatation.
« Si ça change, sois certaine que je t'en aviserai. »
Quelqu'un tapa sur l'épaule de Matt. Se retournant, il fit face à une servante qui souriait jusqu'aux oreilles. Bon, au fond, il n'avait pas tant envie de sortir que ça. Tuon le perturbait. En passant près d'elle, flanquée de la servante, il la salua selon les règles. Et elle ne lui accorda aucune attention, tout comme Surot ou Anat. Pourtant, il commençait à trouver qu'elle croisait son chemin un peu trop souvent. Un après-midi, quelques jours plus tard, il entra dans les appartements de Tailin, après s'être assuré qu'elle était occupée avec Surot. Dans la chambre, il trouva Tuon, en train d'étudier son achan d'areille. Stupéfié, il la regarda passer les doigts sur les mots gravés, le long du manche noir. De l'ancienne langue. À chaque extrémité de la ligne d'écriture, figurait un corbeau d'un métal plus sombre, et on en trouvait 2 autres sur le fer de lance légèrement incurvé. Pour les Séan Chanien, les corbeaux étaient un symbole impérial. Bloquant sa respiration, Matt essaya de reculer sans un bruit. Tuon se tourna vers lui. Une jolie jeune fille, vraiment, et même belle, s'il avait pu cesser de la considérer comme une gosse. Désormais, il ne lui trouvait plus rien d'un garçon manqué. Avec ses robes serrées à la taille, on ne pouvait pas passer à côté de courbes naissantes. En face d'une femme plus jeune que sa grand-mère, Matt éprouvait presque systématiquement l'envie de gambiller un peu, puis de voler peut-être un baiser ou deux. Même ses fichus et anchaniennes du sang faisaient parfois bouillir le sien. Avec Tuon, rien de tout ça ne lui traversait l'esprit. Chez une vraie femme, les courbes devaient être beaucoup plus que naissantes.
« Je ne vois pas Tailin avec un objet pareil, »
dit Tuon, en reposant la lance à côté de l'arc de Dorivière.
« Donc, je suppose que cette arme est à toi. D'où vient-elle? Et comment es-tu entré en sa possession ?»
Ces questions glacèrent les sangs de Matt, La fichue gamine aurait tout aussi bien pu s'adresser à un larbin. Pour autant qu'il le sache, elle ne connaissait même pas son nom. D'après Tailin, depuis l'offre d'achat de sinistre mémoire, elle n'avait plus parlé de lui, ni même mentionné son existence.
« C'est une lance, madame, »
répondit Matt. Non sans peine, il résista à l'envie de s'appuyer à l'encadrement de la porte et de glisser les pouces dans sa ceinture. Après tout, il avait affaire à une Seanchanienne du sang.
« Je l'ai achetée.
Je te donnerai 10 fois son prix. Dis-moi combien tu l'as payé. »
Matt faillit éclater de rire. Pas de joie, ça ne faisait pas le moindre doute. « Je te donnerai 10 fois son prix. Sans même passer par un « envisagerais-tu de la vendre ?»«
Je ne l'ai pas payé avec de l'or, madame. »
D'instinct, Matt porta une main à son cou, pour s'assurer que son foulard cachait bien la cicatrice encore boursouflée.
« Pour s'acquitter une fois de ce prix, il faut être idiot. Alors le multiplier par 10 ?»
Imperturbable sous son voile, Tuan dévisagea longuement le jeune flambeur. Soudain, comme s'il venait de s'évaporer, elle se dirigea vers la porte, la franchit, et s'en alla en silence. Ce ne fut pas leur seule rencontre en tête-à-tête. Bien entendu, elle n'était pas accompagnée en permanence par Anat, Seloussia ou des gardes, mais il eut quand même le sentiment de tomber sur elle parce que partout où il allait. Par exemple, dès qu'il sortait d'une pièce, c'était pour la trouver dans le couloir. Et quand il jetait un coup d'œil par-dessus son épaule, en quittant le palais, c'était souvent pour la surprendre en train de le suivre du regard derrière une fenêtre. Sans le fixer trop ostensiblement, cependant. Dès qu'il s'apercevait qu'il l'avait repérée, elle détournait les yeux, puis tournait carrément le dos à la fenêtre. De quoi lui donner le sentiment d'être une lampe dans un couloir ou une dalle de l'esplanade Molara. Ce petit jeu finit par inquiéter le jeune homme. Quand même, cette fille avait proposé de l'acheter. De quoi éveiller les soupçons d'un type, même s'il n'était pas paranoïaque. Malgré Tuon, Matt gardait la sensation que les choses tournaient enfin bien pour lui. Le golem ne s'étant pas remontré, on pouvait raisonnablement penser qu'il était parti à la recherche d'une proie plus facile. À toutes fins utiles, Matt se tenait loin des endroits sombres et isolés où il aurait pu être en danger. Son médaillon était une excellente protection, mais une foule bien dense se révélait encore plus efficace. Pendant sa dernière visite à Aludra, elle avait failli lâcher le morceau, il en aurait mis sa main au feu, avant de se reprendre et de l'éjecter sans ménagement de son chariot. Quand on l'embrassait assez souvent, une femme finissait par tout vous dire. Pour ne pas éveiller les soupçons, Matt restait loin de la vagabonde. Nérim et Lopin continuaient à y transférer ses véritables vêtements, et la moitié de l'or du coffre glissé sous le lit de la reine avait déjà traversé clandestinement l'esplanade Molara. La cachette dans la cuisine ne lui semblait plus si sûre. Pour le coffre, elle s'était révélée très bonne, mais à l'époque, il résidait à l'auberge. Aujourd'hui, Sétal faisait le vide dans la cuisine, et Nérim ou Lopin jetaient les pièces en vrac dans le trou. Qu'arriverait-il si quelqu'un s'interrogeait sur cet étrange manège? Quand on savait où chercher, soulever la bonne dalle du sol était un jeu d'enfant. Il devait à tout prix vérifier ça en personne. Très longtemps après, il se demanda pourquoi les maudits dés ne l'avaient averti de rien.